Journal de Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Dans ce journal, nous irons à la frontière en Pologne, à Przemysl. La gare a accueilli des centaines de réfugiés ukrainiens. Les sanctions économiques tous azimuts. L'Union européenne et les États-Unis sanctionnent lourdement la Russie. Les Ukrainiens de France qui se serrent les coudes et se rassemblent, nous irons à Lyon. Et puis, dans le reste de l'actualité, on les a adorés dans les années 80, les Tears for Fears. Ils sont de retour avec un nouvel album qui tombe à point nommé. Il dénonce ce monde où certains veulent dominer les autres politiquement et géographiquement.
Et exceptionnellement, pas de débat éco ce matin, mais on retrouve au micro de Léa Salamé à 7h50 le réalisateur et acteur Xavier Dolan, nommé au César pour son rôle dans le film Illusion perdue de Xavier Giannoli.
Inter.
Guerre et conséquences, Laurent, suite à l'invasion russe, la Pologne, voisine de l'Ukraine, se prépare à un afflux massif de réfugiés.
Environ 100 000 personnes ont fui leur foyer en Ukraine et des milliers ont déjà quitté le pays. Direction, pour la plupart, la Pologne. Leur voisin a mis en place des structures d'accueil pour les réfugiés. Reportage à la frontière de notre correspondante Sarah Bakalouglou.
Dans la gare de Przemysl, à une vingtaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, des sortes de lits d'appoint ont été installés. Hier, deux trains sont arrivés d'Ukraine avec à leur bord 600 passagers. Café fumant dans les mains, Leshia est avec ses deux enfants dont l'un s'endort dans les bras de son père. Il est 21h30.
Je suis venue en Pologne pour protéger ma famille, car il y avait des bombardements à l'aéroport près de chez moi, à Ivano-Frankivsk. Je n'ai jamais imaginé cela. Je n'ai jamais cru que la Russie allait s'attaquer à l'Ouest. Petit matin, j'ai fait nos valises en prenant le nécessaire. On a quitté le pays. On a voyagé pendant 12 heures, donc on est très fatigué, choqué. Mais maintenant, on est davantage apaisé car nous sommes en sécurité en Pologne.
Des centres d'accueil pour l'instant peu remplis ont été ouverts près des postes frontières, au poste de Dorohousk. Un petit groupe d'Ukrainiens y attend leur famille, mais de l'autre côté, d'autres tentent au contraire de rentrer en Ukraine. Parmi eux, Yuri, habitant de Kiev, valise à la main.
J'ai vu les informations à la télévision et avec mes collègues, on a annulé toutes nos réunions en Pologne pour revenir auprès de notre famille. C'est mon pays, je dois être là-bas.
Selon les gardes frontières polonais, la situation est restée stable à la frontière ukrainienne ce jeudi. Przemysl, Sarah Bakalouglou, France Inter.
Et dans une vidéo diffusée ce matin, le président ukrainien Zelensky assure que lui et sa famille ne quitteront pas l'Ukraine, ne quitteront pas Kiev. Il reproche à la communauté internationale d'assister de loin, je cite, aux événements en cours. Les Ukrainiens sont les bienvenus. L'Union européenne est pleinement préparée à accueillir les réfugiés. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Des plans d'urgence sont mis en place pour soutenir les États membres qui sont en première ligne. Ce qui nous amène aux sanctions. Les plus récentes ont été annoncées dans la nuit à l'issue du sommet des 27 à Bruxelles. Sanctions économiques, la seule arme aux mains des Occidents. L'Union européenne a donc acté une nouvelle vague de sanctions dans les secteurs de l'énergie, de la finance, des transports. Et un peu plus tôt aux États-Unis, Joe Biden prenait la parole depuis la Maison Blanche pour présenter les mesures de rétorsion à l'égard de la Russie. À Washington, la correspondance de Sébastien Paour.
La Maison Blanche veut couper les sources de financement de la Russie et empêcher son développement à long terme. Nous allons limiter la capacité de la Russie à faire des affaires en dollars, en euros, en livres et en yens pour faire partie d'une économie mondiale. 13 grandes entreprises russes ne peuvent désormais plus se financer sur le marché américain et 4 banques supplémentaires sont sous le coup de sanctions. Cela signifie que tous les actifs qu'elles ont en Amérique seront gelés. Cela inclut VTB, la deuxième plus grande banque de Russie, qui a 250 milliards de dollars et des actifs. Biden parle d'un moment dangereux pour l'Europe et pour la liberté dans le monde, assure que l'Amérique défendra chaque pouce du territoire de l'OTAN, mais pas question pour les soldats américains de combattre en Ukraine. Il reconnaît que les effets des sanctions ne se feront pas sentir tout de suite, mais il assure qu'à terme, Poutine, l'agresseur, celui qui a choisi la guerre, sera un paria sur la scène internationale.
Putin will be a pariah on the international stage.
Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Autre sanction dans le monde encore, le Canada retire à la Russie tous ses permis d'exportation et Londres a interdit la compagnie aérienne Aeroflot et a décidé de sanctionner les banques et les hommes d'affaires russes. Et puis ce coup de fil dans la soirée entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Emmanuel Macron s'est de nouveau donc entretenu au téléphone avec le président russe, le président français à la tête également du Conseil de l'Union européenne a dénoncé la duplicité du président russe. Christian Chéneau.
Le coup de téléphone d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine a eu lieu juste avant le début de la réunion du Conseil européen à Bruxelles. Un appel décidé en concertation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à qui il avait parlé auparavant. L'entretien a été qualifié de sérieux et de franc, a fait savoir le Kremlin. Autrement dit, l'échange téléphonique a tourné au dialogue de sourds entre les deux chefs d'État et n'a pas permis de faire bouger les lignes. Emmanuel Macron a exigé l'arrêt immédiat des opérations militaires russes en Ukraine et a rappelé que la Russie devrait subir des sanctions massives. De son côté, selon le Kremlin, Vladimir Poutine a fourni une explication détaillée sur les raisons qui ont conduit Moscou à lancer son offensive chez son voisin. Même en pleine guerre, Emmanuel Macron veut préserver le fil du dialogue avec son homologue russe, avec l'idée sans doute que, quels que soient les scénarios, il faudra de toute façon reparler avec Vladimir Poutine. Le Kremlin a d'ailleurs tenu à préciser que les deux chefs d'État s'étaient mis d'accord pour rester en contact.
Christian Chéneau, le point à présent sur le terrain. De fortes explosions ont retenti à l'aube ce matin dans le centre de Kiev, la capitale. Selon le président ukrainien Zelensky, le bilan est pour le moment de 137 morts, 300 blessés, et il assure que les Russes vise également des zones civiles. De son côté, Moscou revendique un succès. L'armée russe dit avoir détruit des dizaines d'installations militaires et s'être emparée de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Car la Russie a également agité la menace nucléaire en cas d'entrave à son offensive. Ce à quoi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a averti que l'OTAN était aussi une alliance nucléaire. Jean-Yves Le Drian qui sera l'invité de Nicolas Demorand tout à l'heure à 8h20. Et par ailleurs, le Pentagone va envoyer quelques 7000 soldats supplémentaires en Allemagne. Washington a repositionné un millier de soldats dans les Pays-Bas. Baltes et en Roumanie, deux pays qui redoutent de voir le conflit s'étendre à leurs frontières. Avec les renforts annoncés hier, les États-Unis auront plus de 90 000 soldats en Europe. Et il en est qui vivent l'angoisse de la guerre à distance. Ce sont les Ukrainiens de France. Leur nombre est estimé à 40 000 dans le pays, 5 000 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Un rassemblement était organisé à Lyon hier soir par les associations ukrainiennes. Rassemblement auquel ont participé plusieurs centaines de personnes. C'est le reportage de Mathilde Imberti.
La façade de l'hôtel de ville de Lyon s'illumine aux couleurs de l'Ukraine en cette première soirée de guerre, bleu et jaune, comme le drapeau sur les épaules de Olena.
Maintenant, avec Tchernobyl, c'est très dangereux pour toute l'Europe. Il faut faire sanctions directement en oligarchie, directement en Poutine.
Les sanctions sont nécessaires, appuie Ivana, en plus de la lutte des Ukrainiens sur place. Son frère militaire va partir au front. Toute sa famille dans le nord-ouest du pays est déterminée à résister.
Ma mère, elle n'a aucune compétence au niveau militaire. Elle dit, je vais préparer le borscht pour les soldats s'il faut, mais je ne partirai pas. De se dire, on est ici tranquille, alors que ta famille là-bas, tu sais pas si tu vas la revoir un jour. C'est dur.
Dans la foule de jeunes russes aussi, et cette pancarte, quelques phrases toutes simples, tenues par Olga.
Je suis russe, je suis contre Poutine et je suis contre la guerre de Poutine.
Les sanctions prises contre son pays, Olga est sceptique.
Elle est complètement fou. Et sanctions, pas de sanctions, ça va pas marcher. Il va faire tout ce qu'il veut.
Elles doivent être ciblées pour servir à quelque chose, pense Ilya, étudiant russe à Lyon.
Les sanctions, c'est le seul moyen de montrer la résistance en Europe. Et la seule chose qui inquiète le gouvernement russe, surtout le président, c'est l'argent.
Le maire de Lyon le souligne aussi, c'est au portefeuille qu'il faut toucher le régime de Vladimir Poutine, en tout cas actionner tous les leviers. Lyon, Mathilde Lamberti, France Inter.
Il est 7h38, le reste de l'actualité, Laurence, c'est ce sursaut du côté des parrainages pour la présidentielle.
Le Conseil constitutionnel a mis à jour son décompte. Résultat, Jean-Luc Mélenchon passe la barre des 500 parrainages requis avec 540 signatures. Éric Zemmour, 415, Nicolas Dupont-Aignan 457, Marine Le Pen 414. Tous les trois ne sont plus très loin de l'objectif. Il reste ce matin une semaine aux maires et aux élus pour accorder leur parrainage. En revanche, le sort de Christiane Taubira avec ses 128 signatures semble scellé, William Delesseux.
C'est mort pour Christiane Taubira, sourit un poids lourd socialiste, soutien d'Anne Hidalgo. Il poursuit, on arrive à l'extinction des parrainages, preuve que la campagne Taubira, mal préparée, repose sur un immense malentendu. La dynamique espérée n'est pas là. En deux jours, les équipes de la candidate n'ont arraché que 24 signatures. À ce rythme, il faudrait deux mois pour franchir les 500. Je ne vais pas vous dire que je croise un miracle absolu, admet un de ses proches, même si les coups de fil au maire continuent. Un meeting à Rennes dimanche est maintenu, ce sera sans sans doute le dernier. C'est Éric Zemmour qui bénéficie d'une des plus fortes dynamiques de parrainage, 65 en 48 heures, dont celui de 6 sénateurs LR et de l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. Une forme de geste citoyen, 415 signatures donc, 414 pour Marine Le Pen. Tous les deux voient la fin de la mauvaise passe. La mobilisation de ces derniers jours a payé. On a ce qu'il faut pour boucler la collecte dans une semaine, assure l'entourage de la candidate RN, qui, comme les autres, espère enfin se concentrer sur sa campagne.
William Delesseux. Tout le monde se souvient de leurs tubes qui ont accompagné les années 80. Everybody wants to rule the world, un titre tellement d'actualité aujourd'hui. Eh bien, le groupe Tears for Fears est de retour avec un nouvel album, The Tipping Point. Cela faisait 18 ans que Kurt Smith et Roland Orzabal n'avaient pas sorti de disque. Mathieu Cuiron a rencontré les Tears for Fears cette semaine à Paris. Get your sweets from
the Candyman. Après une première ébauche, Tears for Fears fait marche arrière pour ce septième album. Retour aux fondamentaux pour les deux chanteurs anglais, Roland Orzabal.
Finalement, on a fait l'antithèse de ce qu'on était en train de faire. On était parti sur un truc commercial. On essayait de sonner comme un tel ou un tel avec l'idée de faire des tubes. Et soudain, on se retrouve à deux et on fait quelque chose de très différent. Ça sonne un peu comme Johnny Cash, comme Dylan. Et puis, une batterie à la Led Zeppelin arrive. Il y a beaucoup de points communs entre The Hurting, notre premier album, et celui-ci, The Tipping Point. Déjà, on chante ensemble beaucoup plus à nouveau.
Dans The Tipping Point, le dernier album de Tears for Fears, Kurt Smith et Roland Orzabal évoquent la masculinité toxique, mais aussi toutes les formes d'autoritarisme, notamment dans le titre Master Plan.
Nous vivons toujours dans un monde de fous, a mad world, comme le dit notre chanson. On voit toujours des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de dominer les autres politiquement et géographiquement.
En 40 ans de carrière, Tears for Fears a bouleversé et traversé les modes en dénonçant le monde tel qu'il est. Ils reviennent une nouvelle fois comme la bande-son d'un monde moderne à la dérive.
Les Tears for Fears, une interview de Mathieu Cuiron à retrouver en vidéo sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux.
Merci Laurence Thomas. L'édito politique est à suivre.